Nature Urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet, en partenariat avec les Jardins de Galie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Natures Urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville. Sans plus attendre, notre billet.
Nature Urbaine, le billet vert.
Ou plutôt aujourd'hui, un billet bleu. Nous sommes vendredi soir et c'est devant la télé allumée que je griffonne ce billet. Ou plutôt, pour être exact, que je pianote. Il y a 25 ans, c'était pourtant bien crayons et stylos qui, alternant fulgurance et lenteur absolue, glissaient par moments avec efficacité sur le papier, avant de sécher des minutes durant, la mine à l'air, tandis que je levais le nez pour regarder les mers et en écouter les airs. Le multi-écran avant l'heure, le multitasking bien avant. À lui seul, cet envoûtant générique illustre, par l'image et le son, l'esthétique de l'émission. L'idée de départ, saisir et montrer l'âme des océans qui occupent plus de 70% de la surface de la planète et dont prennent soin une poignée de femmes et d'hommes. Capter de belles images, les cadrer, les choisir et, les plus belles seulement, retenir. Des vagues, des voiliers, des cargos, des ports, des porte-avions, des poissons, des baleines, des ours polaires, des coraux, des marins, des plaisanciers, des marchands, des sportifs, des échoués, des pirogues, de petites embarcations, des chalutiers, des porte-conteneurs, symboles de la mondialisation, des vues aériennes, des plongées, des contre-plongées, mais aussi les sons, le bruit du vent, les pas sur les galets, celui des cliquets, des taquets, de tant de termes jamais trop techniques, le frottement des cirés, des filets qui crissent, des voiles que l'on hisse, de la houle qui glisse, les voix, les accents de toutes les régions de la francophonie, de toutes les langues, avec un doublage légèrement décalé, un peu lent, permettant d'en saisir toute la musicalité. Des mots, mais aussi des silences, des récits aussi simples que captivants où dire « je » n'avait rien de prétentieux, raconter un bonheur simple, rien de touristique, rien de suspicieux. Bien avant le « magazine de l'extrême », en voilier plutôt qu'en ULM, nous visitions Tahiti, sans gel douche, sans parabène ou tout autre produit. Dérivé, oui, grâce à une mise en scène, une ambiance certaine, un certain naturalisme sans, je crois, aucun moralisme. Pêcheur, jamais prêcheur. Est-ce cela que nous nommions journalisme ? Oh, il ne s'agit pas ici d'être acide, nous parlons du magazine de la mer. Et je me souviens de toi, papa, que je salue quand tu passais, soucieux que trop je ne divague, veillant à l'avancée des devoirs, avant de te poster là, debout, d'abord un peu quoi, toi le paysan d'un terroir bien loin de tout rivage, avant parfois de t'asseoir, regarder pour quelques instants, jamais très longtemps, les travailleurs de la mer. Au fond, n'était-il pas bien nommé, monsieur Pernou, dont le prénom, Georges, en grec, signifie « celui qui travaille la terre », et auquel le père, helléniste, avait soufflé le nom de ce rendez-vous hebdomadaire. Gens de terre, gens de mer, de la glèbe au bleu du globe, l'amour du vivant est une passion dévorante. Alors ne pensez pas qu'il s'agit seulement de nostalgie ou que ce billet, qui fait souvent un clin d'œil à ceux qui sont partis, est seulement une rubrique de nécrologie. En ces temps incertains, pour savoir où l'on va, il est bon de se rappeler d'où l'on vient, de revenir à son port d'attache. Renouer avec ses racines peut faire du bien, surtout si elles nous font grandir, si elles aident à nous ouvrir. Thalassa fait partie de celle-là. En partageant la beauté des océans, elle a éveillé les consciences sur leur importance. Preuve aussi que l'on peut être populaire avec une grande exigence. Sur le petit écran, cette émission a ouvert de larges horizons. Prendre le large quand on en a marre, larguer les amarres, c'est trouver la voie de la raison. Car oui, il faut rêver. Alors, bon vent!
Nature Urbaine, l'interview, première partie.
Alors il est là, de noir vêtu, comme il est d'usage dans sa corporation. Mais j'avais écrit cette introduction avant qu'il ne revête une écharpe colorée. Alors, il ne conduit pas de charrette et n'a pas de plan sous le bras. Les poncifs s'arrêtent donc là. Il a le cheveu souple, coiffé en arrière. Son regard est franc, à la fois sombre et lumineux, un brin malicieux. Le sillon nasogénien est prononcé. On redoute les mots qu'il va proférer. On pourrait croire qu'il vit un après-midi de chien. Ce qui serait improbable puisqu'il est ici, avec nous. Et son seul hold-up est peut-être, depuis quelques années, de faire main basse sur nombre de concours, d'appels à projets. De là à dire qu'il règne tel le parrain, ce serait bien inopportun. Mais pour moi, il a quelque chose d'Al Pacino. On dirait bien, vous ne trouvez pas ? Bonjour, Philippe Chiambaretta.
Bonjour Pierre.
Alors Philippe, redevenons sérieux après cette introduction, petit clin d'œil à Augustin Trapenard. Philippe, vous êtes architecte. Vous avez un parcours riche, pour ne pas dire atypique, hors des petites boîtes très étroites, faites en tiki-tac. Nous y reviendrons tout à l'heure, dans la deuxième partie. Aujourd'hui, vous dirigez l'agence d'architecture que vous avez créée, PCA Stream, avec un accent très français. Pour vous, être architecte, et plus précisément être architecte aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ?
Être architecte aujourd'hui, je crois que c'est précisément tout autre chose que ce que ça pouvait être au siècle dernier, au XXe siècle. Pourquoi ? Parce que effectivement, nous sommes dans un temps nouveau, dans une époque, une nouvelle ère, et que cette émission-là, d'ailleurs, je crois, célèbre cette question d'un nouveau rapport entre la ville et la nature, entre la nature et la culture, entre l'homme et son environnement. Et donc, la définition classique du métier d'architecte, qui était celle d'être un petit peu l'homme de l'art, du fait de bâtir, de construire, d'édifier des abris, des maisons, je crois qu'aujourd'hui, on doit garder d'un métier d'architecte, ce qui est celui de la conception, hein, celui de concevoir finalement une idée bâtie, de passer d'un concept à
une réalité.
À une réalité. Et sauf que l'étendue des thèmes et des sujets qui doivent rentrer dans ce concept s'est considérablement élargie par rapport à ce qui était avant. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui est formidable dans ce métier d'architecte, il a pris une toute nouvelle ampleur, qui est celle d'être peut-être un des derniers métiers qui va pouvoir intégrer une telle complexité, une telle transversalité d'éléments et de données.
Alors justement, dans votre agence, en parallèle ou plutôt en complémentarité des projets, vous menez une recherche-action, on pourrait dire, avec Stream pour nous. Ce serait à la fois un laboratoire et une revue. En quelques mots, quel est le sens de cette démarche ?
C'est une démarche que j'ai initiée en 2005, il y a donc 15 ans maintenant, et en fait qui était inspirée par l'idée que la raison d'être pour moi de l'architecture était un combat politique. C'était vraiment, comme je le disais tout à l'heure, j'avais fait un passage par l'art, la création, la peinture, et j'avais vu ce que c'était ressenti de faire, enfin, d'occuper sa vie à quelque chose qui n'était pas une finalité commerciale, une finalité de gagner sa vie, mais d'être, de le mettre au service de quelque chose de plus grand que soi. Et donc, je sentais le besoin de construire une pensée qui serait la raison d'être du métier. Et donc, en parallèle à l'activité opérationnelle de construire, qui peut très rapidement vous dévorer, j'ai eu cette envie de retrouver une transversalité au travers tous les champs de la connaissance qui m'avaient toujours attiré. Enfin, j'avais vieilli déjà dans la frustration, j'avais grandi de voir arrêter beaucoup de champs de savoir, la philosophie, la sociologie, pour faire beaucoup de mathématiques. Et donc, c'était à un moment donné où, puisque j'avais accepté l'idée de devenir architecte, je me suis dit, finalement, allons jusqu'au bout, de réaliser tous mes rêves. Et donc, créons une revue, réunissons dans cette revue un ensemble de penseurs dans tous les domaines que j'aurai envie de visiter. Et ça a été le début de cette aventure qui nous a amené, tous les 3-4 ans, à publier un livre qui est un recueil de pensées. On prend le temps de le faire, il n'y a aucune urgence, il n'y a aucun rendez-vous précis, si ce n'est celui de le faire bien. Et on prend chaque fois un grand sujet, un sujet qui nous paraît universel, et on essaie de le parcourir, de le découvrir, de le visiter au travers de tous les champs de la connaissance, et d'en faire une sorte de synthèse, une sorte d'ensuite de pensée concentrée qui va alimenter notre activité d'urbaniste, d'architecte.
Oui, c'est ça, c'est pas seulement une revue, alors qui est une somme, j'ai ici le numéro 4 dont nous parlerons tout à l'heure, c'est aussi un moyen d'ouvrir le champ des possibles et de nourrir votre réflexion action, puisque, comme vous l'avez dit, on passe du concept au bâti en tant qu'architecte.
Oui, alors c'est une expression assez connue qui marche toujours, hein, c'est de passer du dessin à EIN au dessin à IEN. Bon, donc c'est cette idée-là. Mais dans cette démarche-là de Stream, on l'a appelé Stream parce que chercher une correspondance avec, justement, on parlait de Thalassa tout à l'heure, le flow. Mm-hmm. C'était enfin une évocation de ce titre de Zygmunt Bauman qui était en fait la modernité liquide, donc il y a une sorte de liquéfaction, voire peut-être maintenant de gazifaction même du réel. Et donc le stream, c'est cette façon, cette idée d'être, de naviguer finalement, de surfer sur sur la pensée et d'essayer de se laisser embarquer par une dérive. On prend un sujet de départ et puis on monte dans un canot et on va se laisser dériver, traverser des territoires jusqu'à un moment où on dit voilà, on a fait un beau voyage, maintenant on bivouaque et puis on va raconter tout ce qu'on a découvert.
Alors le bivouac, c'est tout à l'heure avec une petite pause. En attendant, faisons une petite escale au pays de l'Anthropocène. Vous êtes un des premiers, si ce n'est le premier architecte à avoir popularisé ce terme, qui est aujourd'hui de plus en plus répandu. Qu'est-ce que c'est l'Anthropocène, avec le délai qui nous est imparti, donc ce sera une définition relativement brève. Et puis, dans le prolongement, quel impact cette notion a dans la vision de la ville que nous pouvons avoir aujourd'hui?
Alors l'Anthropocène, la définition, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est un terme qui a quand même, qui commence à être assez répandu depuis assez peu de temps. Même s'il est né en 2000, donc au travers d'une définition de Paul Crutzen, qui était un prix Nobel de chimie et géologue également, c'est l'idée que l'espèce humaine serait devenue à partir de... Alors là, il y a débat de savoir, est-ce que c'est depuis la grande accélération des années 50, est-ce que c'est l'apparition de la vapeur ou même des premiers... campement et installation humaine avec le feu, mais peu importe le débat, ce débat-là, c'est dire qu'aujourd'hui, l'activité de l'humanité finit par avoir un impact sur l'équilibre géophysique de la planète. Bon, donc, climat, extinction de la biodiversité, et tous les effets qui désormais sont connus de tout le monde, du grand public, et qui ne font plus débat. Alors, il y a débat sur cette définition, l'Anthropocène, parce que les chargés de la stratigraphie mettent des années, des décennies avant de définir l'apparition de nouvelle ère, donc patience. Mais le fait est que c'est un mot qui, aujourd'hui, je dirais, est un nouveau grand récit, d'une certaine façon, dont on avait peut-être besoin, et qui nous amène à repenser complètement, en tout cas en Occident, une certaine position de l'homme par rapport à la nature, ce grand dualisme qui est apparu à peu près au XVIIe siècle, entre sujet-objet, nature, culture, et qui a été un point de démarrage d'une certaine forme de domination de l'Occident sur le reste de la planète, et qui est donc aujourd'hui nécessite d'être un constat sur ses effets négatifs. Et donc, naturellement, par rapport à notre métier, puisqu'en fait, cet anthropocène est aussi un urbanocène, d'une certaine manière, puisqu'en fait, c'est le constat d'une explosion de la démographie humaine à partir des années 50. Enfin, lorsqu'on regarde ces courbes, c'est une chose qui m'a toujours frappé. C'est absolument spectaculaire de voir cette verticalité soudain du nombre d'humains sur Terre et qui, dans le même temps, se combine avec un pourcentage d'habitants en ville qui, lui aussi, explose. Ce qui fait que les deux conjugués font que la population urbaine a totalement explosé et qu'on a encore, d'ici aux années 2050, entre 2 et 3 milliards d'humains qui vont venir habiter dans les villes. Donc, sujet de l'urbanisme, sujet de l'architecture, se trouvent dans une position, enfin dans des enjeux qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient encore même en 1950.
Exactement, et alors on fait un petit clin d'œil au poulet, puisque il a été question, je crois, en 2020, de l'ère géologique du poulet, puisqu'il serait 25 milliards sur Terre. Alors, je ne sais pas comment on peut nommer cette nouvelle ère géologique. Mais plus sérieusement, effectivement, vous parlez du rapport à la nature, de ne plus être forcément dans une opposition, de faire contre, de faire avec. Et c'est bien là le sujet du numéro 4 de Stream, qui apparu en 2017, qui s'appelle « Les paradoxes du vivant ». Il y a, comme à chaque numéro, un nombre de contributeurs assez significatif, c'est le moins qu'on puisse dire, plus d'une trentaine, entre 30 et 40 à chaque fois. Alors évidemment, je ne vais pas vous demander une fiche de lecture, je vais inviter nos auditrices et nos auditeurs de Radio Immo et de Radio Territoria à aller découvrir cette revue, les numéros précédents et peut-être ceux à venir. Mais Philippe, le vivant, c'est une question de plus en plus prégnante dans votre travail. Qu'est-ce que vous tirez de l'ensemble de ces contributions, à la fois d'un point de vue théorique et dans votre pratique architecturale ?
Alors, c'est bien le sujet, Pierre, de savoir effectivement comment utiliser, ou en tout cas comment nourrir notre pratique de ces réflexions théoriques. On est arrivé à ce sujet du vivant après le travail sur l'Anthropocène. Ce livre sur habiter l'Anthropocène nous mettait face à ce questionnement de savoir finalement comment on doit repenser notre rapport à la ville lorsque l'on comprend que les externalités négatives et invisibles de prime abord sont finalement dominantes aujourd'hui. Donc on a compris que il y avait un rapport à la science qui avait découper le monde en silos séparés, dans des petites boîtes, et qu'en fait, dans ce travail de séparation, on avait écarté la réalité des phénomènes qui sont tous des systèmes extrêmement complexes et dynamiques. Donc c'est le besoin dont déjà, c'est pas nouveau, mais ça fait une trentaine d'années qu'Edgar Morin
a théorisé la pensée
complexe et la nécessité de reliance, etc. Donc c'est aussi cette idée qui est au travers de Stream, de retrouver de la reliance entre les pensées. Et donc, on est arrivé à la fin de ce livre 3 sur la pensée complexe, les systèmes dynamiques. En fait, dit comment pousser plus loin cette réflexion, et on a eu cette sorte d'intuition, parce qu'en fait on procède
par itération.
C'est finalement, qu'est-ce qui est le maximum de complexité? C'est le vivant, en fait. Et le vivant doit être donc désormais un peu l'élément de référence, le champ de référence pour penser la ville ou l'architecture, alors que ça avait été jusqu'à présent plutôt la mécanique et la physique. Et donc on s'est déplacé vers l'exploration de ces sciences du vivant, et on a découvert, comme c'est souvent le cas, que cette intuition-là, en fait, cette présence du vivant était désormais partout. En fait, ce mot qu'on a édité le livre en 2017, et depuis, j'ai l'impression de voir, c'est un peu le syndrome de la robe rouge, c'est que ce qu'on voit du vivant, effectivement, dans tous les sujets. Et alors, donc, c'est vrai que comment on l'intègre maintenant dans notre architecture, eh bien, c'est que on ne fait plus finalement de séparation entre le paysage et l'architecture. On a intégré déjà dans l'agence des paysagistes, il n'y a plus de limite entre ce qui est dehors et qui donc serait le champ du paysage, sans vouloir nécessairement, naturellement, se substituer à notre champ de connaissances. Mais enfin, c'est beaucoup d'éléments, notamment comment regarder le temps et les saisons dans une architecture ou dans un urbanisme ou dans un territoire. Vraiment intégrer cette notion de début, d'une fin, des saisons dans le regard qu'on peut porter lorsqu'on conçoit un bâtiment, se projeter dans le temps. Le fait qu'il y aura peut-être une vie après.
Le temps long. Le fameux que les paysagistes réclament souvent. Ce qui est très intéressant dans cette revue, c'est effectivement sur ce sujet du vivant qui nous intéresse aujourd'hui, on a à la fois la pensée d'écologue, donc on va parler plutôt de biodiversité, mais on a aussi les paysagistes pour toute cette démarche pluridisciplinaire, mais aussi sensorielle qui leur tient à cœur et qui est au cœur de leur métier. On a aussi des biologistes, des philosophes. Et en fait, vous filez la métaphore du vivant, vous parlez de métabolisme urbain. et aussi aller regarder à la fois du côté de la conservation de la nature, comment la préserver, mais aussi de l'innovation, et tout ça effectivement sans silo, de manière croisée. C'est pas un exercice tout à fait facile. Alors, si on aborde quelques projets maintenant, évidemment le lien n'est pas toujours simple entre une production et une réalité, mais vous avez mis en avant le vivant en toute modestie comme manifeste d'un certain nombre de réalisations. Alors j'en ai choisi deux, mais vous en avez peut-être d'autres. Laborde, qui est le siège du cabinet d'avocats Gilles Eloyette, ancienne caserne de la rue de la Pépinière. Alors pour nos auditrices et nos auditeurs, qui est bien nommée puisqu'elle abritait au XVIIe siècle la pépinière royale, qui fournissait les résidences royales en arbres, en arbustes et en fleurs, et pour lequel vous avez travaillé avec Chantal Colleux-Dumont, je crois, qui n'est autre que la directrice du domaine de Chaumont-sur-Loire, qui accueille chaque année un formidable festival des jardins, en plus de collections temporaires et permanentes. Et puis on pense aussi à Stream Building, qui est lauréat de Réinventer Paris, qui est attendu prochainement à la porte de Clichy, à quelques encablures du monumental palais de justice de votre confrère, et de vos confrères plutôt, de l'atelier Renzo Piano. Alors quel projet est-ce que vous aimeriez évoquer ici? C'est votre carte blanche avant la pause, qui concentre pour vous le mieux ou qui incarne cette question du vivant, et qui conjugue avec lui plutôt qu'il ne fait contre.
Je crois que c'est les deux projets que vous avez choisis sont un bon choix, et bien travaillé. C'est parfait. Je pense que.
Merci, monsieur.
Non, mais c'est vrai que on peut tout à fait les prendre comme exemple et illustration. Dans la Borne, effectivement, c'était un projet qui était une ancienne caserne à l'origine, une très bonne caserne d'ailleurs, qui est du 19e, et puis qui a subi toutes les affres d'une restructuration et agrandissement, notamment le cercle militaire qui est venu tronquer une partie de cette caserne, et puis dans les années 60, une adjonction qui a été assez malheureuse et qui fait qu'il restait à la fin juste une branche de ce qui avait été auparavant un ensemble. Et donc là, on a développé un projet dans lequel on a aussi investi notre pan de notre réflexion qui est sur les mutations de nos façons de travailler. C'est un autre sujet très présent dans notre production, notre recherche. Et donc, on est de plus en plus convaincus que ce rapport, ce besoin de vivant, ce besoin d'espace extérieur, ce besoin de reconnexion à la nature devient absolument présent au quotidien. Cette biophilie est plus qu'un effet de mode. Je pense qu'elle est une sorte de désir impulsif maintenant que l'on a plus en étant en ville et qui ne va aller que s'accroissant. Et donc on avait voulu que ce projet-là, dans la restructuration de cette caserne, on a voulu offrir au bâtiment qu'on a créé à tout collaborateur un balcon. C'est-à-dire chacun à un espace extérieur. Ça a l'air d'une simplicité, mais c'est assez rare dans un immeuble de bureau. Et donc, au cœur de ce bâtiment, on a voulu faire un très beau jardin, et au lieu de le faire, je dirais, comme ça, en passant comme une sorte de formalité, j'ai proposé au maître d'ouvrage d'organiser une consultation en invitant Chantal Colleux-Dumont, avec son travail absolument remarquable, comme effectivement à Chaumont, et donc on a organisé une consultation qui nous a donné le plaisir de voir différentes réflexions de jeunes talents, de paysagistes, penseurs, et on a choisi ce projet de la superstructure, qui est un collectif qui réunit des paysagistes, un architecte, un philosophe, et c'était une démarche absolument passionnante, et qui aujourd'hui, eh bien, fait œuvre au milieu de ce siège social, et qui continue de... Et pour lesquels on a la grande joie que ces avocats nous disent que ce projet a changé leur façon de travailler, leur bien-être au travail, leur recrutement des jeunes avocats. Enfin, c'était tout ce qu'on pouvait rêver d'entendre.
C'est le meilleur des trophées.
C'est tout à fait satisfaisant quand on a ce genre de retour. Alors, le Stream Building, c'est quelques années après. Effectivement, on a participé à ce concours de Réinventer Paris, comme beaucoup d'agences. Mm-hmm. Et c'est une démarche, moi, que j'ai beaucoup soutenue, parce que j'ai trouvé que ça, à côté des défauts qu'on a pu reprocher, c'est aussi quand même une démarche qui a pas mal secoué la production urbaine, dans ce sens où on a mis au premier plan, l'innovation, cette volonté de changer complètement le regard sur le rôle de chacun, hein, là aussi de casser d'autres silos, celui du public, du privé, de la maîtrise d'ouvrage, de l'investisseur. Et donc tout ça a été assez positif dans le sens où ce design thinking justement, qui est de dire on réunit un petit peu tous les acteurs au début et on essaie de penser ensemble ce qu'il faut faire, donc avec beaucoup de vertus. Et notamment, ça a été l'occasion assez formidable. On avait des investisseurs éclairés qui nous ont fait cet honneur de dire, ben, sur l'innovation, nous, on n'y connaît pas grand-chose, donc carte blanche, et invente la recette complètement, le modèle économique, le programme, l'architecture, bien sûr, de ce bâtiment. Et donc, cette carte blanche, je dis, ben, puisque vous m'offrez cette chance-là, est-ce que vous accepteriez que je l'appelle le Stream Building comme étant finalement un bâtiment qui sera vraiment l'incarnation de notre travail de recherche? Et donc, on était en train d'écrire ce livre sur le vivant, et ça a été le guide de notre réflexion, à savoir comment produire un bâtiment dans lequel la notion de cycle serait présente à tous les étages et un petit peu à tous les stades de la conception et sous différentes formes. Donc, non seulement on a conçu un bâtiment très évolutif avec en structure bois, donc il y a 5 ans, c'était peut-être pas aussi courant qu'aujourd'hui, qui permet une grande évolution. Enfin, ça, c'est une réversibilité plus le stockage carbone, bien sûr, que permet l'architecture en bois, mais une capacité par la trame qu'on a développée de pouvoir évoluer très facilement dans le temps. Donc, c'est une des caractéristiques du vivant, de pouvoir s'adapter, de pouvoir se moduler. Donc, ce bâtiment-là pourra suivre l'évolution des besoins de la ville, passer du bureau à du logement, à la résidence hôtelière. Donc, dans sa forme, il est adaptable. On a également intégré sur le toit une des premières ferme urbaine donc qui n'est pas encore réalisée, mais qui était au moment où ça apparaissait dans Paris, et qui va nourrir et alimenter en partie les restaurants qui sont au rez-de-chaussée. Et puis on a une autre innovation dont on espère, on est assez curieux de voir si ça va marcher, mais on a une façade qui est protégée du soleil par du houblon, et donc qui va permettre d'être là aussi collecté à l'automne, et de pouvoir, avec une mini-brasserie qui sera en sous-sol, produire 30 000 litres de bière par an. Ce sera notre stream beer dans le stream building, où on a le stream eat, le stream stay, le stream play, le stream work. Et donc cette idée, effectivement, de décloisonner les différents pans de notre vie et de rendre peut-être l'architecture aussi plus vivante. Donc ça va de la métaphore jusqu'à l'intégration du biologique et même de la physique par la captation du CO2.
Eh bien, ce programme est alléchant et on a hâte de pouvoir déguster la Stream Mousse. je rappelle que cette émission est disponible en podcast et en streaming. Je ne pouvais pas la manquer, mais avant, comme les skippers du Vendée Globe qui sont en train de remonter le Pacifique, avant de terminer notre voyage dans ce courant, faisons escale dans la botte italienne pour un petit morceau de Dolce Vita.
Nature urbaine, le reportage.
Et oui, à nouveau une escale musicale, pas de reportage. En cette année confinée, les agences de voyage immobiles ont battu des records. Et d'ailleurs, les agences de notation de prospective sanitaire à la petite semaine, naguère dénommée Café du Commerce, où on pourra peut-être un jour déguster à nouveau une stream mousse, et mettre des perspectives très positives sur ce marché. C'est même une stratégie Blue Ocean, mais on ne va pas faire d'économie tout de suite. Tous les moyens légaux y sont passés, et la bande-son a incontestablement aidé à ces voyages immobiles. Alors c'est une mélodie venue d'Italie que j'aimerais, avec vous, partager. Est-ce le souvenir de voyages heureux, si lointains maintenant? La musicalité même de la langue ritale? Le doute immédiat, dès les premières notes, sur l'époque de parution de cette chanson. Sommes-nous dans les années 60 présent? Mais de qui est-ce déjà? Zucchero, Tozzi, Cutugno, Ramazzotti? Ou est-ce encore la dégaine du chanteur? Longue moustache, débardeur, façon grande époque des footballeurs. Je ne saurais le dire, mais en tout cas, Andreas Lazlo de Simone m'a embarqué. Sans jeu de mots, sans voiture, Simone. Jusqu'à même, et là je suis très sérieux, me titiller les glandes lacrymales à la lecture du clip, puis à la traduction des paroles, extrêmement simple, mais auxquelles un papa gâteux ne peut que souscrire.
Thank you. dal giorno in cui sei nato tu. La vita è musica e fantasia, hai dato un volto alla vita mia, ed ora è tua. Il mondo è musica e fantasia, questo è importante, il resto è una bugia, che si racconta chi non ha ironia in vita sua. È musica e fantasia, tienilo a mente, non ti perderai, vedrai crescendo, lo capirai, lo capirai. La vita è musica e fantasia, ma se ti perderai, che vuoi che sia, basterà viverla con ironia, basterà viverla. Sei grande ormai, fra un mondo diventerai quello che vuoi. Per me tu sei tutto, per me tu sei. Sei musica, tu sei fantasia, tu tutto sei. E i tuoi bracci sono i più belli del mondo, e i tuoi occhi sono i più sinceri, e dentro al cuore ho un amore vero, grande più del cielo. I tuoi bracci sono i più belli del mondo, e i tuoi occhi sono i più sinceri, e nel cuore ho un amore vero dal giorno in cui sei nato tu.
Nature urbaine, l'interview, deuxième partie.
Et oui, télescopage entre Guns N' Roses et notre chanteur italien. La vita è musica e fantasia. La vie est musique, fantaisie, mais architecture aussi. Bienvenue à toutes et à tous dans Natures urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville, en compagnie de l'architecte Philippe Chiambaretta. Alors Philippe, c'est de coutume la plupart du temps dans cette émission. Parlons maintenant un peu plus de vous. Votre parcours est out of the box. Ces petites boîtes très étroites qui font tout à la fois référence aux pavillons et aux conventions auxquelles nous faisions allusion en début d'émission, sur des paroles finalement presque très archi de Nancy Reynolds, plus popularisée en France par Graham Allwright, le néo-zélandais. C'est un mélange, un stream quelque part. Et votre biographie officielle sur Wikipédia nous dit de formation scientifique, ingénieur des ponts et chaussées et économique. Diplômé du MIT, Philippe Chiambaretta exerce un temps dans le conseil en stratégie avant de diriger, durant 10 ans, attention pour l'accent, le Thaler de Architectura de Riccardo Bofill, l'architecte qu'on ne présente plus, à Paris. Diplômé en 2000 de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, il crée la même année l'agence d'architecture PCA basée à Paris. J'ai oublié, et Wikipédia ne le dit pas, le passage artistique que vous avez cité tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on peut résumer le cheminement qui vous a amené à l'architecture ?
C'est plus facile de le faire a posteriori qu'a priori, parce qu'a priori, c'était juste une galère, c'était juste une errance et un peu une angoisse de se trouver. C'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour, avant de trouver cette terre promise qui a été pour moi l'architecture, parce qu'en fait, j'aimais un petit peu tout ce qu'on me proposait de dessiner, d'écrire, de faire des mathématiques. J'avais envie de tout faire et ça a été une grande souffrance quand j'ai fait ce choix, alors un petit peu conditionné, comme on l'est en France, de faire des prépas aux grandes écoles. Mais et c'est vrai que le fait de devoir me limiter aux mathématiques et à la physique pendant 3 ans, puis ensuite aux ponts et chaussées, quand même encore en engineering, a réveillé beaucoup, a provoqué beaucoup de souffrance et de frustration de tous ces autres possibles auxquels j'avais dû renoncer. Et donc ce parcours qui a duré presque une dizaine d'années avant que je me réinscrive en fac d'archi a été cette quête de savoir où trouver une sorte de complétude, de reliance, hein, d'essayer moi-même de réunir tous ces morceaux que je trouvais un peu brisés au fond de moi-même. Et donc, le hasard de la vie m'a amené effectivement à faire diverses choses dans lesquelles, en les faisant, je n'étais pas très comblé, mais qui finalement, toutes aujourd'hui, sont une part de ce que je peux exercer chaque jour. C'est-à-dire, la stratégie est une façon de comprendre assez vite l'essentiel d'une situation. Les mathématiques sont un outil formidable pour conceptualiser les données. Et effectivement, j'ai fait un petit peu pendant 2 ans de peinture avant de finalement de migrer vers l'architecture. Et là, c'était, je le disais tout à l'heure, celui de se dire, on fait une œuvre. Cette idée de travailler pour un projet qui n'a pas, enfin qui est une force d'inspiration qui doit vous dépasser. Donc, en mélangeant tout ça, et grâce à la rencontre avec cet architecte formidable qui était Ricardo Boffin, qui a été décrit en France, qui a parfois avec raison, mais qui était qui est une personne d'une grande force de caractère et qui m'a montré, appris beaucoup de choses sur le courage, sur le oser. Et bien, je pense en réunissant toutes ces expériences, en démarrant 2000, donc tard, j'avais 37 ans, une activité d'architecte. Pour un architecte, c'est jeune. C'est plus dur pour un danseur de démarrer à 37 ans, mais pour un architecte, c'est assez jeune. Et effectivement, ce parcours un peu erratique où l'architecture a été enfin le point où je parlais de bivouac tout à l'heure, mais là non, j'ai pu poser mes bagages et dire voilà, maintenant j'y suis, c'est ça que je suis, et n'ayons plus de questions ontologiques de savoir. Essayons maintenant de faire ce métier-là du mieux possible, peut-être de le réinventer, peut-être et ensuite je me suis engagé dans ce travail de recherche pour savoir quel est le sens politique, philosophique que j'allais donner à cette pratique.
Alors, ce parcours erratique, je ne sais pas, en tous les cas sinueux,
oui.
C'est emprunter des chemins et faire durer le plaisir de la marche. On connaît plusieurs architectes ingénieurs. Alors, je vais en citer un, c'est absolument pas le seul, mais Paul Andreux, l'homme de l'ombre de l'Arche de la Défense. Mais est-ce que vous diriez que d'avoir fait des mathématiques, du conseil, une connotation et une connaissance économique, est-ce que ça a été un atout dans le pilotage de votre agence, dans la vision concrète de la viabilité économique de certains projets, n'ayons pas peur des mots, ou est-ce qu'au contraire, peut-être pendant quelques années, ça vous a pesé et on a essayé de vous ranger dans une case de business architecte ou en tous les cas de ne pas vous considérer totalement.
Alors là, je ne porte pas beaucoup d'attention à ceux qui pourraient... parce que c'est vrai que c'est souvent une des limites, un des défauts de cette formation et de ce métier en France, c'est que très souvent, les architectes sont complètement ignares par rapport à ce qui est justement le monde de l'économie, même le monde de la technique. Et donc, il y a un côté un peu bisounours par moment qui a pu m'agacer, je dirais. Voilà. Non, ce n'est pas... le problème n'est pas d'être dans une logique économique, le problème n'est pas systématiquement de considérer qu'il y a les bons architectes, les gentils architectes et les méchants promoteurs. On connaît bien un petit peu ces clichés. Et ce sont d'autres boîtes. Et donc, comme je n'aime pas les boîtes, celles-là non plus.
Exactement.
Je ne les accepte pas. Je pense que globalement, certes, il y a eu ça m'a aidé dans la gestion au sens très trivial de mon agence. Donc, d'avoir cette formation un petit peu managériale, je dirais. Bon. Mais beaucoup plus important que ça. Je crois que dans le nécessaire dialogue, je crois que je vis ce métier vraiment comme une sorte de combat, comme une sorte d'engagement, et dans lequel il s'agit de convaincre, il s'agit je dirais pas d'imposer, mais en tout cas de faire valoir une vision. Et la capacité à se mettre dans la logique de ses interlocuteurs, ne serait-ce que pour leur démontrer qu'il existe d'autres réponses à leur équation. Mmh. Et donc là, on est obligé de démonter leur raisonnement, de pouvoir les accompagner, d'utiliser même leur langage. Et c'est vrai que lorsque je me retrouvais face à des patrons de grandes foncières ou autres, et qui voyaient mon parcours, et que potentiellement j'aurais pu être à leur place, ouais, ou avoir leur fonction, ça détend un petit peu. Et ça permet d'avoir un dialogue, peut-être plus en parlant la même langue, et donc de pouvoir plus certainement convaincre. Et c'est pas du tout de l'affairisme au sens d'avoir un réseau, un carnet d'adresses, parce qu'en fait il n'y a jamais eu personne naturellement comme mes clients qui venaient déposer des choses, etc. Non, c'est vraiment une capacité à pouvoir se mettre dans les chaussures de l'autre, et de donc plus facilement l'amener au point de vue qu'on veut développer. Donc je pense que ça a été globalement, j'en suis même certain, une force finalement.
Alors cette force, vous avez dit, elle vient aussi de ce passage chez Ricardo Bofill, et effectivement les poncifs vont bon train à son endroit. On pense à des espaces où se figure plutôt le béton que le vivant, on pense aux arcades du lac, de la Sourderie, à Montigny-le-Bretonneux, la place de Catalogne à Paris, ou même le très cinématographique Escapade d'Abraxas à Noisy-le-Grand. Mais finalement, ces réalisations, elles restent. On pourrait dire, si on faisait un petit peu d'anachronisme, que la Fabrica, c'est de l'économie circulaire, puisqu'on fait le réemploi d'une cimenterie avec une magnifique végétalisation spontanée et volontaire. Je suis volontairement provocateur, parce que on voit bien à travers ces réalisations que l'architecture, ça n'est pas simplement cocher des cases, et évitons que la végétalisation devienne l'une d'entre elles. Il s'agit bien de laisser une trace, et en l'occurrence, il y a un grand projet que vous menez. Il s'agit d'une prospective, une étude prospective pour les Champs-Élysées. On change d'échelle, on passe à l'urbanisme. Vous menez cette étude depuis 2018, si je ne dis pas de bêtises, pour le compte du comité des Champs-Élysées, 5 ans après une première étude menée par votre confrère Jean-Paul Viguier, et près de 30 ans après la dernière rénovation, je crois, de la plus belle avenue du monde, qui avait été menée sous la houlette de Bernard Huet, de Jean-Michel Villemotte et de Norman Foster. La somme de cette démarche pluridisciplinaire, elle a été réunie dans un ouvrage qui a paru, je crois, en février, au moment de l'inauguration de l'exposition au pavillon de l'Arsenal, qui a été visible en pointillé compte tenu de la crise sanitaire. Mais cette somme, elle est tout à fait disponible. Vous pouvez la consulter après 18h, bientôt les week-ends, à la maison. Eh bien, dans cette somme, vous avez consacré un chapitre au vivant, et vous parlez même, je crois, de champ des possibles, à la fois pour le haut de l'avenue, qui est très connu, sur laquelle Joe Dassin se baladait, mais aussi, ce qu'on oublie souvent, les immenses jardins à leurs pieds qui vont toucher la place de la Concorde. Alors, cette étude, elle a valu beaucoup de papiers, beaucoup d'articles en ligne, y compris à l'étranger, avec des images dont vous aviez bien prévenu qu'elles étaient là pour aider à se projeter, mais que beaucoup ont pris pour argent comptant. Donc je crois que c'est un sujet un petit peu touchy, pourrions-nous dire. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire, à la fois avec des faits et puis des perspectives, de ce projet d'appliquer au champ, un champ des possibles vivant?
Alors, le champ des possibles, oui, c'est l'expression est assez jolie. C'est un travail qui nous a absolument fascinés et passionnés pendant 2 ans et demi sur une question au début anodine et même à laquelle je ne savais pas comment répondre, puisque le comité Champs-Élysées, depuis plus de 100 ans, réunit l'ensemble des acteurs que ce soit les enseignes ou les propriétaires ou le Grand Palais, le Petit Palais, enfin tous ceux qui vivent autour des Champs-Élysées et avec cette fonction d'en préserver le rayonnement dans le monde. Ces Champs-Élysées, On n'y pense jamais, on s'y intéresse très peu. Les Parisiens n'aiment plus les Champs-Élysées. Il y a un vrai snobisme par rapport à un désamour de cette avenue. Et j'en étais moi-même enfin, tout à fait l'exemple. Et donc là, en acceptant cette mission, qui me paraissait un petit peu impossible, on est rentré dans le mythe des Champs-Élysées, qu'on a voulu vraiment remonter à ses origines. Et là, on a découvert une histoire absolument, absolument merveilleuse et très instructive par rapport à la démarche dont on parle depuis le début de cet entretien, à savoir réinventer ce qu'est le rôle de l'architecte à l'ère de l'Anthropocène. Et les Champs-Élysées, on a fait une découverte, plusieurs découvertes assez incroyables. La première, c'est que effectivement, ils ont été dessinés par Le Nôtre à la demande de Louis XIV en 1670, donc juste précisément dans ce siècle où Descartes va être un des premiers à ouvrir cette pensée de la modernité occidentale en fixant à l'homme cet objectif de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et on a fait des recherches qui nous ont permis d'attester qu'effectivement il y avait eu des influences et des relations entre Le Nôtre et entre Descartes, et que très certainement ce dessin qui géométrisait la campagne, donc on était jusqu'à ce moment-là, Paris était ceint par une muraille, et le théâtre, enfin le palais des Tuileries, qui donnait sur le jardin des Tuileries, dessiné pour Catherine de Médicis, donc était l'extrémité ouest de la capitale. Louis XIV décide d'ouvrir la ville, à la campagne, et demande à Nôtre de faire ce grand tracé sur les champs, qui deviennent les Champs-Élysées, par ce geste géométrique qui va donc être, et on a voulu théoriser cette idée-là, que c'était au fond le kilomètre zéro de cette modernité occidentale, puisque c'était ce geste symbolique d'une ouverture et d'une sorte de conquête, même par l'esprit, par la géométrie, par la mathématique, de la nature par l'homme. Et puis pendant trois siècles, ça a été l'avenue finalement qui a été celle de la célébration de la pensée moderne, progrès de la science, progrès de l'industrie, toutes les expositions universelles ont eu lieu sur les Champs-Élysées, premier éclairage public sur les Champs-Élysées, première ligne de métro, et puis l'automobile, les salons de l'aéronautique au Grand Palais. Donc en fait, ça a été pendant trois siècles la fierté de la France et le lieu de récit d'une modernité heureuse, d'un progrès qui s'accomplissait. Et on avait des pays sous-développés qu'on venait, quelque part, on montrait des jardins d'enfants, par exemple, qui étaient des jardins qui étaient là pour raconter le rayonnement et la puissance des colonies, enfin de la puissance coloniale française, avec des plantes exotiques qu'on ramenait pour... on était très loin, effectivement, des questions de plantes endogènes et c'était une approche tout à fait différente. Eh bien, donc, on a vu qu'à un moment donné, cette histoire a déraillé. Mmh. Et on constate aujourd'hui ce vrai désamour. Alors, on a cherché à comprendre quand s'était passée cette sortie de route, enfin, quand avait commencé ce désamour. On a réussi à le dater de la fin des années 60. Et en fait, ça accompagne, à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui, cette sorte de descente aux enfers que l'on vit en Occident avec un progrès qui d'un seul coup se retourne contre nous. Et donc voilà, on a donc proposé une vision pour les 10 années qui viennent en disant pourquoi les Champs-Élysées ne seraient-ils pas l'endroit formidable, le plus approprié pour faire une sorte de laboratoire en vraie grandeur de recherche dans lequel on inventerait, on repenserait l'urbanisme contemporain en faisant un exemple pour le monde et en retrouvant peut-être ce que ça avait été pendant trois siècles, c'est-à-dire un endroit d'avant-garde autour d'une pensée complètement renouvelée de cette idée de la ville comme un métabolisme vivant et dans lequel on a mis en place un cadre conceptuel en invitant beaucoup de penseurs, de chercheurs, d'universités, d'industriels qui nous ont accompagnés. Et on a une immense fierté, on est rêvé que d'une chose, c'est que la ville de Paris... s'empare de cette idée et la fasse sienne. Et je crois que c'est maintenant une chose acquise, puisqu'Anne Hidalgo a déclaré il y a une dizaine de jours que la ville allait lancer un projet de rénovation des Champs-Élysées. Comme vous l'avez bien précisé, notre travail était une vision, était une façon de stimuler les imaginations. Naturellement, ce n'est pas stricto sensu ce qui sera réalisé, mais si ça montre une direction et que ça a pu provoquer une prise de conscience, eh bien, je dirais que cette vision de l'architecture comme un combat ou comme la défense d'une vision a été quelque part entendue. Donc, c'est une grande satisfaction.
Eh bien, merci pour ces précisions. Il y a beaucoup à dire, à la fois sur le projet pour l'avenue et la considération, entre autres sujets, puisqu'on décilote, vous l'avez bien compris aujourd'hui dans ce stream, les disciplines et le jardin. Moi, je me souviens, lorsque nous avions travaillé ensemble sur le sujet, d'un fait implacable. Je crois que le jardin, les jardins des Champs font deux fois la surface du parc Monceau et sont 20 fois moins fréquentés, trois fois, voilà. Donc vous imaginez l'intensité de fréquentation qui est beaucoup plus faible. Ça ouvre un champ des possibles de réappropriation. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, hélas, c'est déjà la fin de ce voyage immobile dans la barque Natures Urbaines. J'espère que, à travers le parcours singulier de cet architecte, Philippe Chiambaretta, vous aurez eu envie de faire quelques balades architecturales et, pourquoi pas, végétales. Philippe, merci de vous être prêté au jeu de ces questions parfois alambiquées et d'y avoir apporté des réponses plutôt concises par rapport au délai qui nous était imparti. Cette émission a été rendue possible grâce à la ténacité et la complicité de Sylvain et Olivier, avec à la technique Baptiste et Théo. Merci à tous, portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien.
Nature Urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet, en partenariat avec les Jardins de Galie.